êtes sur Fréquence Mistral Digne et c'est notre émission pour la dignité qui commence tout de suite avec Régis Coulanges et Raphaël Lecomte. Voilà.
On va commencer avec l'Iran, un massacre sans précédent contre les manifestations.
Depuis le 28 décembre 2025, l'Iran est le théâtre d'un nouveau cycle de répression sanglant. La violence des autorités à l'encontre des manifestations a causé des milliers de morts et de blessés. Dans un contexte où l'accès à une information fiable est difficile et où les fake news sont nombreuses, nos équipes ont pu analyser rigoureusement des vidéos recueillies, des dizaines de témoignages et recouper les faits. Nous dénonçons un massacre sans précédent. Aux côtés de Human Rights Watch, nous appelons les autorités iraniennes à mettre fin immédiatement à ces massacres. Dites au monde que les crimes innommables sont commis en Iran. Dites au monde que s'il ne fait rien, le pays se transformera en cimetière. Cet appel à l'aide est le cri désespéré d'un journaliste iranien, témoin des massacres à Téhéran. En Iran, chaque jour, le bilan s'alourdit un peu plus. Depuis le 28 décembre 2025, les autorités iraniennes se livrent à une répression sanglante. Une escalade coordonnée de violences est à l'œuvre contre les manifestations dans tout le pays. Les images qui nous parviennent d'Iran sont effroyables. Nos experts d'Amnesty International les ont analysées, authentifiées, décryptées. On y voit les manifestants et manifestantes fuyant les tirs indiscriminés des forces de l'ordre. On y voit des centaines de corps empilés dans des morgues improvisées. On y voit des personnes gisant, inertes et ensanglantées sur le sol des hôpitaux. Ces corps sont ceux des victimes de la répression des autorités iraniennes. Les chiffres sont vertigineux. La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur l'Iran, Mai Sato, fait état d'au moins 5000 personnes tuées. Un bébé de seulement 2 ans, blessé d'une balle dans la tête, figure parmi les victimes. Selon nos informations, des dizaines de milliers d'autres ont été arrêtés et détenus arbitrairement. Des manifestants et manifestantes risquent d'être exécutés pour avoir participé aux mobilisations. C'est le cas d'Amir Hossein Gaderzadeh, qui risque une condamnation à mort à seulement 19 ans. Depuis le 8 janvier, la population iranienne est coupée du monde. Pour dissimuler la vérité, les autorités ont coupé Internet et les télécommunications dans tout le pays. Les autorités ont aussi déployé des patrouilles lourdement armées dans les rues, imposé un couvre-feu nocturne et interdit tout rassemblement. Ces scènes de violence rappellent tristement la répression du mouvement Femmes, Vie, Liberté, qui secoue l'Iran depuis 2022. 3 ans après, les Iraniens et Iraniennes qui osent exprimer leur colère face à des décennies de répression et réclamer des changements fondamentaux, sont une fois de plus confrontés au même schéma meurtrier des autorités. La gravité et l'ampleur des massacres commis par les autorités iraniennes sont sans précédent. La communauté internationale doit réagir de toute urgence pour mettre un terme au bain de sang. Le monde a les yeux rivés vers l'Iran. Nous devons répondre à l'aide du peuple iranien.
Voilà. Il y a une pétition en ligne, hein. Si vous allez sur amnesty.fr, vous pouvez aller la signer. On écoute maintenant une chanson, Iran, la voix du peuple.
La nuit a duré trop longtemps, les mères ont pleuré en silence, mais dans les rues, dans les regards, on voit déjà naître l'espoir. Les chaînes tombent d'une à une, les voix montent vers la lune. Ce n'est plus un simple rêve, c'est un peuple qui se lève. Ils ont voulu briser nos voix, mais nos cœurs.
Regarde demain, le soleil.
en tête, comme des reines fières et droites. Ce n'est plus seulement leur combat, c'est celui de tout un état. Les hommes posent leurs armes pour construire au lieu de détruire. Les enfants rêvent à nouveau d'un avenir sans fil.
Maintenant, nous allons parler des victimes de l'ICE, la police anti-immigration de Donald Trump. Elle est devenue le bras armé de Donald Trump. L'ICE frappe sans distinction. Elle arrête des personnes étrangères n'ayant commis aucune infraction, des enfants sur le chemin de l'école, et tue des citoyens américains venus protéger les personnes visées. Nous rassemblons ici une liste non exhaustive des victimes de la politique anti-immigration de Donald Trump, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe aussi dans les centres de rétention. Rappeler leur nom, leur histoire, c'est mesurer la dérive autoritaire à l'œuvre aux États-Unis et l'obligation d'y résister. Alexis Preti, tué par l'ICE le 24 janvier 2026. Il avait 37 ans. Il était infirmier dans un hôpital pour anciens combattants. Le 24 janvier, l'ICE patrouille dans un quartier de Minneapolis, dans sa traque contre les personnes étrangères. Alex Preti filme une descente anti-immigration en cours pour tenter de défendre les personnes visées. L'ICE l'a abattu en pleine rue. Liam, 5 ans, rentré de son école maternelle avec son père. Adrian Conero. L'ICE a d'abord arrêté son père et ensuite utilisé le petit garçon comme appât pour tenter d'arrêter sa mère à l'intérieur de leur maison. Les agents de l'ICE ont embarqué Liam, sac à dos Spider-Man sur le dos et bonnet bleu lapin sur les oreilles. Liam et son père ont été arrêtés à Minneapolis et envoyés dans un centre de détention au Texas, à 1500 km de chez eux. Chongli Scott Tao, 56 ans, citoyen américain, était dans sa maison de Minneapolis quand l'ICE a débarqué sans mandat pour l'arrêter, chez lui. Les agents de l'ICE l'ont traîné en sous-vêtements sous la neige et l'ont embarqué. Après une arrestation très violente, ils l'ont finalement redéposé chez lui au bout de 2 heures, car affirme s'être trompé de personne.
Renée Nicole Good, tuée par l'ICE le 7 janvier 2026. Renée Nicole Good avait 37 ans. Elle était poétesse et avait 3 enfants. Le 8 janvier, elle se trouve dans un quartier de Minneapolis où l'ICE fait une descente anti-immigration. Alors qu'elle tentait de protéger les personnes ciblées, elle a été abattue par l'ICE au volant de sa voiture. Kate Porter, tuée par l'ICE le 31 décembre 2025. Kate Porter, 43 ans et père de 2 enfants, a été abattue par un agent de l'ICE le soir du Nouvel An à Los Angeles, devant son immeuble. L'agent de l'ICE n'était pas en service ce soir-là. Denis Cabrera Rodriguez, arrêté par l'ICE le 26 décembre 2025. Denis Cabrera Rodriguez est un artiste cubain de 33 ans. Il attendait la réponse à sa demande d'asile politique déposée aux États-Unis et en cours de traitement. Le 26 novembre, Il est arrêté par l'ICE sans aucun motif et envoyé au centre de détention de Chrome en Floride. Les pouvoirs de cette police fédérale ont été démultipliés par Donald Trump. Son budget a explosé. Tout comme ses lieux d'intervention, désormais étendus jusqu'aux écoles, aux hôpitaux et aux lieux de culte. Les méthodes de l'ICE s'apparentent aujourd'hui à des opérations paramilitaires. Face à une police qui traque, arrête, enferme et tue, il est indispensable de continuer à se mobiliser, de manifester, de protéger les personnes ciblées. La résistance n'est plus une option, c'est une obligation. Et on va passer un morceau de Bruce Springsteen, Streets of Minneapolis, qu'il a composé en quelques heures, quelques jours, et qui relate les événements qui se passent à Minneapolis.
Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice. Neath an occupier's boots, King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Thugs beat upon his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones, and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Hold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chance of ICE out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. Streets of Minneapolis. We'll remember the names of those who died.
Voilà, nous allons maintenant vous parler de ce que les membres d'Amnesty font régulièrement, ce qu'on appelle les actions urgentes. Alors, il y a aussi des personnes qui se sont inscrites aux actions urgentes et qui ne sont pas membres d'Amnesty, mais qui acceptent de faire ces actions de temps en temps. Voilà. Donc, comme le nom l'indique, c'est une action urgente, c'est-à-dire qu'il faut la faire relativement rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on reçoit ? En fait, on reçoit un document. Par exemple, la semaine dernière, nous en avons reçu deux. On va vous les présenter. La première action, ça concerne le Venezuela, où on demande que toutes les personnes détenues arbitrairement doivent être libérées. Donc, on nous explique l'histoire. Entre le 25 décembre 2025 et le 19 janvier 2026, les autorités du Venezuela ont libéré un certain nombre de personnes détenues arbitrairement pour des raisons politiques. Cependant, au moins 780 personnes se trouvent toujours en détention arbitraire pour des raisons politiques. Nous appelons la présidente par intérim, Delcy Rodriguez, à libérer toutes les personnes détenues arbitrairement et à protéger leur vie, leur sécurité et leurs garanties relatives à un procès équitable tant qu'elles seront en détention. Voilà. Donc on nous demande d'envoyer l'appel qui est dessous, ou d'utiliser nos propres mots en s'inspirant du modèle de la lettre. Et donc, on doit envoyer ce courrier à Delcy Rodriguez, la présidente par intérim, et puis toujours copie à l'ambassade de la République bolivarienne du Venezuela à Paris. Chaque fois, on fait la copie pour l'ambassadeur se trouvant en France. Voilà. Donc, on peut des fois envoyer des mails. Là, on nous demande d'envoyer une lettre. Donc, le groupe achète les timbres, parce que ça revient assez cher, hein, 2,25 € courrier international, plus 1,52 €, je crois, pour l'ambassadeur. Donc, grâce notamment au Foire aux Livres, on arrive à acheter des timbres pour qu'un maximum de membres du groupe envoient ces actions. Donc, il y a un courrier qui est préparé. Et puis, ensuite, après ce courrier, on a un complément d'information sur la situation citée. Hein, et là, donc, c'est un complément d'information sur la politique de répression au Venezuela. Et puis, on nous indique aussi qu'il faut agir dans les plus brefs délais et utiliser les prénoms et les noms des personnes détenues. Voilà, il y a des renseignements pratiques. Voilà, et un lien vers une action urgente suivante. Voilà comment ça se passe. Alors, avant que Raphaël vous présente la deuxième action urgente qu'on a fait dans la semaine, on va écouter Célia, le droit de dire.
J'écris des mots, je trace un cri dans l'encre libre de mes nuits. Je parle au vent, au monde entier. S'enchaîne sans peur d'être effacée, car une voix qui s'éteint, c'est un feu qu'on retient, mais un mot qu'on libère, c'est une étoile en éclaireur. Le droit de dire, le droit d'écrire, sans bâillon, sans mur à franchir, un souffle immense, un vent debout, sans liberté. Si les pensées deviennent cendres, si les discours n'osent plus fendre, alors le monde perd ses couleurs et les esprits meurent sans rumeur. Car une voix qu'on enterre, c'est un futur qu'on perd, mais un mot qu'on défend, c'est l'espoir vivant dans le temps. Le droit de dire, le droit d'écrire, sans bâillon, sans mur à franchir, un souffle immense, un vent debout, sans liberté, que sommes-nous? Même si parfois ça dérange, même si le doute nous mélange, éclair qui fait trembler, que l'ombre qui veut tout figer. Le droit de dire, le droit d'écrire, sans bâillon, sans mur à franchir, un souffle immense, un vent debout, sans liberté, que sommes-nous?
Maintenant, Raphaël va nous lire l'action urgente proprement dit concernant l'Ouganda.
Lettre au président de l'Ouganda, Oweri Kaguta Museveni. Monsieur le Président, je vous écris afin d'appeler votre attention sur le cas de l'avocate spécialiste des droits humains, Sarah Bereite, arrêtée de manière arbitraire chez elle, à Kampala, le 30 décembre 2025. Au moment de son interpellation, elle n'a pas été informée du motif et les policiers ne lui ont pas présenté de mandat d'arrêt. Elle a tout d'abord été détenue au commissariat de Nateheti pendant 4 jours, au-delà de la limite de 48 heures fixée par la Constitution, en violation de l'interdiction de la détention illégale et des normes d'acquitté des procès. Elle a ensuite été transférée à la section pour femmes de la prison de haute sécurité de Luzira, où elle se trouve toujours dans l'attente de son procès. Le 2 janvier 2026, Sarah Bireete, avocate et expert aux gouvernances constitutionnelles, a été inculpée devant le tribunal de Buganda Road d'obtention ou divulgation illégale d'informations personnelles. Cette accusation semble liée au fait que Sarah Bireete a débattu publiquement d'informations concernant le registre national des électeurs sans l'autorisation de la commission électorale. Il est à noter que ce registre est un document public et que les opinions de Sarah Bireete sont protégées au titre de son droit à la liberté d'expression. Le 2 janvier 2026, le tribunal a décidé d'ajourner l'audience consacrée à sa libération sous caution au 21 janvier, en violation de ses droits constitutionnels et des normes d'équité des procès, car les directives nationales en la matière exigent qu'une décision immédiate soit rendue dans le cas de demande de libération sous caution en attente du procès. L'arrestation et la détention arbitraire de Sarah Bireete semblent s'inscrire dans une politique plus large des autorités ougandaises qui durcissent la répression généralisée contre leurs détracteurs et l'opposition politique. À la lumière de ce qui précède, je prie instamment votre gouverneur d'abandonner les charges retenues contre Sarah Bireete immédiatement et sans condition et la faire libérer. Mettre fin à l'utilisation abusive du système de justice pénale, notamment du système de caution utilisé par les autorités pour maintenir en détention prolongée les défenseurs et défenseuses des droits humains et les détracteurs du gouvernement. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération.
Voilà, vous voyez qu'on reste toujours très poli, mais on dit les choses et on s'appuie sur le droit international et le droit humanitaire. On va maintenant écouter les ambassadeurs de la liberté d'expression chanter.
Quand on refuse, on dit non, ils n'auront pas de prise. Pour nous, la peur, c'est la goutte d'eau sur le pare-brise.
How many more must die? How many more displaced? How many cheap old girls must they sell a sex slave? How many of my daughters turn to suicide bombers before we realize we must wake from our slumber?
Nous avons le droit de vivre et de nous épanouir. Laissez-nous parler.
Je suis Gao Tomoto qui a les tabacs encore. Je suis le Mali qui a mal dans son corps au nord. Victime des mines qui exterminent au nom du Mujahideen. L'industrie de l'enlèvement, à qui profite cette
crise? La pyramide de notre hantise avec laquelle on nous agresse. C'est la course au pouvoir qui nous cause toutes ces détresses. Il deal avec le diable qui crée la psychose puis nous mate. On voit des crimes, on vit l'horreur ici, c'est la tourmente.
Voilà, enquêter, alerter, agir, c'est comme ça qu'Amnesty International travaille. Elle vient de faire une enquête sur la France, sur la situation des travailleurs étrangers. Elle a ensuite alerté par un rapport qui s'appelle « À la merci d'un papier ». Et maintenant, on est dans la phase d'action parce qu'on va interpeller les autorités et faire signer un maximum de personnes pour notre pétition. Alors voilà le résultat de cette enquête. Comment l'État fabrique la précarité des travailleurs et travailleuses étrangers et étrangères? Elle s'occupe des enfants, accompagne les aînés, concocte les plats des restaurants, construisent les maisons, bâtissent leur vie aussi. Des personnes d'origine étrangère vivent en France depuis des années, et pourtant, du jour au lendemain, leur vie peut basculer. Plus de travail, plus de droits, plus de sécurité. En cause, un titre de séjour précaire. Cette bascule n'a rien d'un accident. Elle est le produit d'un système dysfonctionnel orchestré par l'État français. Notre rapport dévoile les rouages d'une machinerie qui fabrique de l'irrégularité et brise des vies. Vous ne lirez pas ces témoignages ailleurs. Il nous a fallu un an et demi d'enquête pour recueillir la parole de 27 hommes et femmes venus de 16 pays qui vivent et travaillent en France depuis des années. Des récits rares, de personnes qui n'ont déjà pas le temps de vivre. Du jour au lendemain, leur vie a basculé dans l'irrégularité. Leur demande de renouvellement a bien été déposée, mais la carte n'est pas arrivée à temps. Privées de papier, elles ont tout perdu. Emploi, revenus, parfois logement. Et leur quotidien était déjà fait d'abus, entre salaires impayés, menaces et injures racistes. Parce que leur renouvellement dépend aussi de leur employeur, cette dépendance les rend vulnérables à l'exploitation. Dans ce quotidien morcelé, elles nous ont quand même accordé un peu de leur temps. Si elles ont accepté de témoigner, c'est pour que leur voix soit enfin entendue. Car, vivant dans la crainte permanente, elles n'osent pas parler. Plusieurs d'entre elles souhaitaient témoigner à visage découvert. Or, ce choix les aurait exposées à trop de risques, alors elles ont préféré garder l'anonymat. Notre rapport donne à voir leur vie invisible, mais bien réelle, brisée par les dysfonctionnements du système. Madou, femme de chambre sous pression depuis 30 ans, Nadia, aide-domicile en France depuis 23 ans, Jean-Louis, surdiplômé, contraint d'accepter des emplois précaires où il est exploité, leur précarité n'a rien d'un hasard. Elle est entretenue par l'État, qui fabrique l'irrégularité. Notre rapport, que vous pouvez lire d'ailleurs sur le site amnesty.fr, s'appelle « À la merci d'un papier ». Il révèle comment les autorités françaises empêchent l'accès à un séjour stable, provoquant rupture de droit, perte d'emploi, absence de stabilité. Comment en est-on arrivé là? Comment la France fait-elle basculer des personnes en situation régulière dans l'irrégularité? Quels mécanismes maintiennent ces hommes et ces femmes dans une précarité permanente? Par l'analyse du document, de loi et d'entretien avec des experts, nous avons pointé plusieurs dysfonctionnements entretenus par l'État pour maintenir les travailleuses et travailleurs étrangers dans la précarité.
Premier mécanisme, des lois toujours plus restrictives. Au cours des dernières décennies, les gouvernements français successifs ont multiplié les textes réglementant le droit au séjour, rendant le système de plus en plus complexe et toujours plus restrictif. Chaque année, les textes ne cessent de s'empiler et d'être modifiés. Par exemple, le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a fait l'objet d'une centaine de modifications depuis sa création en 2005. Chaque nouvelle loi s'ajoute à la précédente. Le système devient illisible, entre labyrinthe administratif et enchaînement des renouvellements, allant presque systématiquement dans le sens d'une précarisation du séjour, d'une restriction des libertés. Ces textes, constamment modifiés, conduisent à un système aussi illisible qu'instable et source d'inégalités.
Deuxième mécanisme, des cartes de séjour plus courtes pour une précarité durable. Même pour des personnes qui sont en France depuis plus de 20 ans, nombreuses sont celles coincées dans un cycle sans fin de cartes d'un an ou deux. À partir des années 2000, l'accès à la carte de résident se restreint pour les travailleurs étrangers non européens. Pendant que l'accès à une carte stable se durcit, les nouveaux textes démultiplient les catégories de cartes de séjour courtes. Ces cartes doivent être renouvelées si fréquemment que les personnes concernées se retrouvent coincées dans un cycle sans fin de démarches administratives. Parfois, il arrive que des cartes soient délivrées avec un tel retard qu'elles sont déjà expirées avant d'être reçues. Et chaque renouvellement a un coût, 225 euros. Une somme non négligeable, surtout pour les personnes vivant déjà dans une lourde précarité. En 2017, l'État a collecté 193 millions d'euros sur cette taxe, un montant qui ne bénéficie pas aux travailleurs étrangers, mais alimente le budget général de l'État. Ce système de cartes de séjour courtes empêche toute perspective d'un avenir stable en France. Même après plusieurs années passées en France, les travailleurs étrangers se retrouvent pris au piège d'un système qui ne leur permet pas de sortir de la précarité. Leur vie est rythmée dans l'attente d'un rendez-vous, la peur du renouvellement. On va passer une chanson et continuer à vous parler de ce rapport. On écoute HK, J'ai marché jusqu'à vous.
Les Les coups de sang, les coups du sort, les coups de poing, les coups encore. J'en ai reçu plus qu'à mon tour, j'en ai reçu jusqu'à ce jour. J'ai quitté mon petit village en portant pour seul bagage des restes de rêves d'enfant, des gentils qui gagnent à la fin. J'ai marché jusqu'à vous, j'ai eu peur, je l'avoue. À chaque pause, chaque trêve, mille fois j'ai fait ce rêve, je disais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous, je suis là, voyez-vous. Mille fois j'ai fait le vœu, je vous en fais l'aveu, de me voir un jour dans vos yeux. Les petits chemins retirés, les routes fleuves et les forêts, les vastes plaines et les plateaux, les grandes villes comme en photo. Je marchais tant que j'ai pu, tant de fois je me suis perdu. Les trains, les camions, les bateaux, les coups de blouse, les coups de couteau. J'ai marché jusqu'à vous, j'ai eu peur, je l'avoue. À chaque pause, chaque trêve, mille fois j'ai fait ce rêve, je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous, je suis là, voyez-vous. Mille fois j'ai fait le vœu, je vous en fais l'aveu, de me voir un jour dans vos yeux. Combien de pays traversés, combien de frontières dépassées, et me voilà, m'en voulez-vous, je n'avais pas pris rendez-vous. De mon histoire, vous savez tout, arrivé seul et sans le sou, mais surtout arrivé en vie. Comprenez pourquoi je souris. J'ai marché jusqu'à vous, j'y ai cru, je l'avoue. À chaque pause, chaque trêve, mille fois j'ai fait ce rêve, je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous, je suis là, voyez-vous. Mille fois j'ai fait le vœu, je vous en fais l'aveu, de me voir un jour dans vos yeux. J'ai marché jusqu'à vous, j'ai eu peur, je l'avoue. Mille fois j'ai fait ce rêve, mille fois j'ai fait ce rêve, je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous, j'ai marché jusqu'à vous, j'ai marché jusqu'à vous.
Troisième mécanisme, le mur du numérique. Aujourd'hui, il est quasi impossible d'entrer dans une préfecture sans rendez-vous. Avec la dématérialisation des procédures via l'administration numérique pour les étrangers en France, ANEF, les démarches liées au droit au séjour sont en ligne. Obtenir un rendez-vous s'impose comme un parcours du combattant. Plus de guichets physiques en préfecture, les services sont injoignables, les créneaux saturés. Dès qu'un nouveau créneau est mis en ligne, il disparaît. Un marché noir de revente, de rendez-vous, s'est même développé et à des prix exorbitants. Les personnes se retrouvent seules face à un mur numérique. Le seul choix qui s'impose à elles, attendre. Je vais perdre mon travail si je n'ai pas ma carte, raconte Hicham, intérimaire dans le bâtiment. Son récépissé, preuve temporaire de droit de séjour en attente de carte, arrive en fin de validité. Mais aucun créneau n'est jamais disponible. Il attend des mois et rien. Or, sans rendez-vous, pas de récépissé. Et sans récépissé, il ne peut plus travailler. Le silence de l'administration fabrique des sans-papiers. Loin de faciliter les démarches, les problèmes causés par la dématérialisation ne font qu'accroître les demandes et par conséquent engorger les services préfectoraux et rallongent les relais de traitement.
Je vous cite le cas de Madou, 45 ans, originaire de Gambie et qui est en France depuis 1998. Elle vit en France donc depuis presque 30 ans. En 2003, elle obtient sa première carte de séjour d'un an, mais chaque année, elle doit la renouveler, et ce jusqu'en 2010, où son titre passe d'un à deux ans. Employée comme femme de ménage depuis des années, Madou demande une carte de résident de 10 ans. Elle essuie un refus. Ressources jugées insuffisantes et niveau de français jugé trop faible. Or, un emploi à temps partiel dans le nettoyage, ça rapporte peu. Et si Madou parle bien le français, c'est à l'écrit que c'est plus difficile. « Je vais aller à l'école, dit-elle. » Entre ses horaires éclatés et les soins à apporter à son mari malade, comment trouver le temps? Alors, en attendant la carte de résident, elle paie chaque année 225 euros de timbre fiscal et repart avec un titre temporaire. Madou est épuisée. Missionnée dans une nouvelle entreprise, les cadences s'enchaînent. 6 ascenseurs, 6 toilettes, les couloirs, 2 entrées, la salle de sport, les douches. En 3h45, c'est impossible. Elle demande plus d'heures de travail et un salaire plus juste. Face à elle, un mur. Son employeur n'accepte pas. Si tu dis que tu ne peux pas, il ramène quelqu'un d'autre. Alors, on fait. Aux douleurs du corps s'ajoute l'angoisse des démarches à la préfecture. Lors de son dernier renouvellement, Madou s'est retrouvée 2 semaines sans papier, faute de réponse dans les délais. Elle est convoquée à son travail et risque le licenciement. Grâce à la CGT, elle obtient sa carte in extremis. Si je perds mon travail, comment je paye mon loyer?
Ali, 51 ans, originaire d'Inde, en France depuis 2003. Ali travaillait comme préparateur de sandwich dans une chaîne de boulangerie en région parisienne. À la préparation, nous n'étions que des étrangers, raconte-t-il. Dans la restauration, plus d'un salarié sur deux en Île-de-France est d'origine étrangère. Le secteur embauche. Mais pour des travailleurs étrangers, leur quotidien est aussi fait d'insultes, de mépris et de violations de leurs droits. Pendant des années, Ali encaisse les humiliations de son supérieur. Il nous parlait mal, interrompait nos pauses, nous interdisait de manger. Ali n'ose pas protester, car son titre de séjour dépend de son contrat. J'avais besoin de ce travail pour vivre et pour montrer à la préfecture que je travaille pour mon titre de séjour. Depuis 2013, il renouvelle sans cesse les titres de courte durée. Et en 2023, sa vie s'effondre. Son récépissé n'est pas renouvelé. J'ai perdu mon travail dans la restauration, on m'a licencié. Pourtant, Ali avait tout déposé à temps. Les dettes s'accumulent, il ne peut plus payer son loyer, ni la pension de ses enfants. Après des mois d'attente, sa carte de séjour arrive enfin. Elle est valable 2 ans. Or, elle arrive avec un tel retard qu'elle est déjà entamée d'un an. À peine le temps de souffler, Ali doit déjà lancer de nouvelles démarches de renouvellement. Il n'a qu'une angoisse, que la situation se reproduise et qu'à nouveau, il perde tout.
Boubacar, 22 ans, originaire de Côte d'Ivoire, en France depuis 2018. Il est arrivé en France comme mineur isolé. Il décroche un CAP bâtiment et commence à travailler en intérim. Les contrats s'enchaînent, semaine après semaine, sans repos. « Pendant 3 ans, je n'ai pas pris de congé. » Boubacar dit aimer travailler. C'était naturel pour moi, mais il reconnaît avoir confondu l'amour du travail et le fait de casser son corps. Malgré l'épuisement, il continue, car à la fin de chaque année, la même angoisse, le renouvellement de son titre de séjour. Il obtient le premier en 2022, le second en 2023. Puis en juin 2024, le titre expire. Boubacar n'a plus qu'un récépissé. Son agence d'intérim ne veut plus le faire travailler. Il cherche ailleurs, s'accroche, mais finit par tomber malade, il perd son emploi et démarre un cycle d'extrême précarité. Il s'endette, son frigo se vide, et il tente de se soigner comme il peut. J'ai tout fait, je me suis sacrifié. Je ne vois pas quelqu'un de plus intégré que moi, s'exclame Boubacar. Pourtant, la préfecture le maintient dans la précarité. J'ai rempli mon devoir, mon engagement d'intégration, mais la France n'a pas rempli le sien. Comme tant de jeunes de son âge, Boubacar a des rêves. J'aimerais créer mon entreprise en France, confie-t-il. Mais je suis empêché par ce type de séjour qui me pourrit la vie et m'enchaîne. Seulement, la chaîne n'est pas visible. Au quotidien, entre le travail, les insultes et les papiers, il reste peu de place pour rêver. Les récits de Madou, d'Ali et de Boubacar sont 3 des 27 récits recueillis dans le cadre de notre enquête. Leurs histoires ne sont pas des exceptions, mais le quotidien de milliers de travailleurs et travailleuses étrangères en France. Et nous-mêmes, à Digne, nous connaissons des cas, justement, de jeunes qui attendent le renouvellement de leurs papiers désespérément, donc ils ne peuvent pas passer leur permis de conduire, ils ne peuvent pas passer leur diplôme. Voilà, c'est vraiment une catastrophe, cette situation voulue par la France. On va maintenant écouter les petits chanteurs de Laval qui nous chantent les sans-papiers. Voilà, alors pour terminer cette émission, je vais vous donner les prochaines actions du groupe dinois d'Amnesty International. Donc demain, mardi 3 février à 20h30, au centre René Char, nous participons au ciné-débat autour du film Veilleur de nuit, donc en partenariat avec le réseau Éducation sans frontières et l'association de soutien aux jeunes isolés étrangers. Voilà, alors ce film, Veilleur de nuit, a été réalisé par Juliette de Marcillac. Voilà en résumé de quoi il parle. À Montgenèvre, station de ski idyllique, une immense chasse aux migrants se déploie à la nuit tombée. Nuit et jour, des bénévoles se relaient pour leur porter secours. Le documentaire propose une immersion dans la maraude, le temps d'une nuit. Derrière les pistes de ski se cache un tout autre paysage, celui de la périlleuse traversée nocturne empruntée par de nombreux migrants pour entrer sur le territoire français. Bien que la loi permette aux réfugiés de demander l'asile dès leur arrivée dans le pays, en réalité, beaucoup sont renvoyés en Italie par les autorités, sans même avoir eu la possibilité de déposer une demande. Afin d'exercer leurs droits fondamentaux, ils et elles empruntent des chemins de plus en plus hauts dans la montagne, mettant leur vie en danger. Au sommet, des veilleurs et des veilleuses de nuit se tiennent prêts et prêtes à leur venir en aide et à les guider vers un lieu de refuge. La réalisatrice Juliette de Marcillac réalise un premier long métrage admirable qui suit le travail des bénévoles et des secouristes qu'elle accompagne lors de maraudes, de patrouilles dans la neige et de rondes en voiture. Grâce à une approche en cinéma direct, elle offre un regard subtil au plus proche de l'engagement d'un précieux réseau solidaire. Donc je vous invite vivement à venir voir demain au centre René Char ce film à partir de 20h30. Nous, Amnesty tiendra un stand où justement vous aurez la possibilité de signer la pétition sur le problème de la précarité des travailleurs et travailleuses étrangers en France. Voilà. Il y aura aussi une pétition sur l'Iran, bien sûr. Donc venez nombreux demain, mardi 3 février à 20h30 au centre René Char. Regardez ce très beau film, Veilleur de nuit, sur cette solidarité qui s'est développée à Briançon et dans cette région. Ensuite, du vendredi 13 février au 28 février, nous allons mettre une exposition artistique en soutien à Luis Manuel Otero Alcantara, qui est un artiste cubain qui avait été condamné à 5 ans de prison pour avoir voulu s'exprimer librement par son art. C'est le dossier d'action de notre groupe, c'est-à-dire c'est un dossier que nous avons reçu et nous essayons d'alerter régulièrement les autorités pour le faire libérer parce que sa place n'est pas en prison. Donc nous allons mettre cette exposition qui a été réalisée par des artistes de la région qui ont été sensibilisés à son cas et qui ont réalisé des œuvres magnifiques de sculpture, de peinture, de collage en sa faveur. Voilà, alors n'hésitez pas à aller à Malmoisson. Cette exposition se tiendra à la médiathèque de Malmoisson aux heures d'ouverture de la médiathèque. On l'installe le vendredi 13 février au matin et à partir de 16h, c'est le vernissage de l'exposition en présence de certains des artistes qui ont réalisé les œuvres. Donc vous pouvez venir le vendredi 13 février à ce vernissage et vous aurez un petit buffet en plus. Voilà, et sinon, aux heures d'ouverture de la médiathèque jusqu'au 28 février, vous pourrez voir cette très belle exposition. Et puis le 25 février, le mercredi, à partir de 17h, dans la salle des associations à côté de la mairie de Digne, à droite de la salle de l'atrium, on a la réunion de notre groupe à 17h. Donc n'hésitez pas, si vous voulez voir comment ça se passe, à venir assister à une de nos réunions. Donc mercredi, c'est toujours le dernier mercredi du mois à partir de 17h, salle des associations. Et puis en mars, on aura le festival au cinéma pour les droits humains, avec trois séances, les jeudis 12, 19 et 26 mars. Mais de cela, je vous en reparlerons à nos prochaines émissions sur Fréquence Mistral. Voilà, on termine cette émission avec Patrice Martineau qui nous chante Les Migrants.
Ils surgissent de cette route, de l'autre côté de la rive, sans un bagage et sans le sou, fuyant, dit-on, guerre et famine. Les uns s'en viennent d'Orient, où les jardins n'ont plus de roses, où l'or noir est pour les puissants, frères dont ils ne sont pas grand-chose. D'autres se perdent dans les flots et d'autres encore sur nos plages, s'échouent sur cet Eldorado qu'ils imaginent sans nuages. Vogue les vagues de migrants au gré des passeurs et des vents sur des chaloupes de fortune. Que des peines dérivant vers les faisceaux d'un Occident trop vieux pour leur offrir la lune. Sous des mines patibulaires, les orbités le ventre creux, ils se résignent à leur manière à fuir leur ombre sous les cieux. Ils vont où les mène le vent, au-delà des roses des sables ou des jolies fleurs au Coran, les revendront piteux esclaves à la merci d'un vent mauvais. Ils se prennent sans passeport à Lampedusa ou Calais, les pieds dans l'envers du décor. Vogue les vagues de migrants au gré des passeurs et des vents sur des chaloupes de fortune. Que des veines dérivant vers les faisceaux d'un Occident trop vieux pour leur offrir la lune. Rivages endormis qui n'ont de cocagne que le nom, se fracassent leurs utopies, nos défiances et nos questions. Ils vaguent aux abords de nos villes, si loin des leurs, si près des miens. Question de mort, question de vie, et sous quel masque, je n'en sais rien. Vogue les vagues de migrants au gré des passeurs et des vents sur les chaloupes de fortune. Que des belles dérivant vers les faisceaux d'un Occident trop vieux pour leur offrir la lune. Vogue les vagues de migrants au gré des passeurs et des vents sur les chaloupes de fortune. Que des belles dérivant vers les faisceaux d'un Occident trop vieux pour leur offrir la lune.